Portrait de femme, deuxième édition, avec Jacqueline Engrave, une émission donc préparée chaque semaine par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. La semaine dernière, c'était sur Olympe de Gouges. Aujourd'hui, il s'agit de Hubertine Auclair. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Hubertine Auclair, qui s'est battue toute sa vie pour conquérir le droit de vote pour les femmes. Donc, Hubertine Auclair, elle est née en 1848 à Saint-Priest-en-Murat, je crois que c'est près de Lyon. Et par coïncidence, c'est exactement 100 ans après Olympe de Gouges, dont elle est l'héritière en quelque sorte. Elle est issue d'une famille de paysans prospères, notables locaux, dont l'héritage lui apporte l'indépendance économique. Et la précision est importante car cette situation lui a permis de se consacrer entièrement à la lutte pour les femmes, dont la situation l'a très tôt révoltée. Elle le dit elle-même avec des mots forts dans son journal La Citoyenne. Je cite « J'ai été, presque en naissant, une révoltée contre l'écrasement féminin, tant la brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a donné de bonne heure, déterminée à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. » Et en effet, première suffragiste française, Hubertine Auclair, elle a marqué son époque par ses positions pionnières, très modernes encore aujourd'hui, et ses méthodes radicales, qui sont modernes aussi comme méthode. Donc elle est arrivée à Paris en 1870 à 22 ans et elle a créé immédiatement un groupe féministe qui est devenu le suffrage des femmes en 1883. Et voilà qui met en évidence sa priorité, le vote. Pour elle, clé de voûte de tous les autres droits pour les femmes, de toutes les égalités, pense-t-elle. Si les femmes subissent les mêmes lois que les hommes, elles doivent avoir les mêmes droits. C'est donc une idée déjà exprimée par Olympe de Gouges, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais c'est une idée qui nous paraît aujourd'hui frappée au coin du bon sens. Mais les hommes de l'époque ne l'entendent pas de cette oreille, bien sûr. Dans ce journal La Citoyenne, ses revendications exprimées sont tellement en avance sur son temps que certaines sont encore non satisfaites aujourd'hui en 2021. Citons la question du divorce sur des bases égalitaires, l'instruction intégrale, l'admission des femmes aux emplois rémunérateurs, à travail égal, salaire égal. Donc j'ouvre la parenthèse, toujours pas acquis aujourd'hui, en dépit de 6 lois sur le sujet depuis 1972, mais sans une volonté politique forte d'appliquer ces lois. L'égalité professionnelle et salariale n'existe toujours pas aujourd'hui en France. Elle parle aussi de l'égalité dans la parentalité, qui n'est toujours pas concrétisée aussi aujourd'hui. Donc Hubertine, elle estime que la conquête du pouvoir politique par les femmes est primordiale. Elle croit que ce pouvoir leur donnera le droit de confectionner les lois égalitaires qu'elles souhaitent, de réformer ce code civil napoléonien qui fait de la femme une mineure à vie. Pour elle, tant que les hommes seront, je cite, « seuls détenteurs du pouvoir, ils l'exerceront à leur profit, ils feront les lois pour eux contre nous », c'est ce qu'elle dit. Elle avait raison avant l'heure, car en effet, c'est ce constat qui a conduit à se résoudre, sur pression des féministes et des femmes ministres de tous bords politiques, confère le manifeste des 10 pour la parité le 6 juin 1996, signé par les femmes de droite comme de gauche. Donc, nous a obligés à promulguer la loi de 2000, notamment rendant la parité homme-femme obligatoire pour les élections. Car, c'est peut-être dommage, mais on s'est rendu à l'évidence qu'on ne peut pas produire de l'égalité sans contrainte. Ça, c'est une phrase de Geneviève Fraisse. Voilà, alors ça, c'est quant à ses revendications et quant à ses méthodes qualifiées de radicales et médiatiques, ce qui fait penser à celles employées aujourd'hui par les jeunes féministes. C'est la grève de l'impôt en 1880 qu'elle préconise pour les femmes, car elle dit « qui ne vote pas ne paie pas », ce qui paraît tout à fait logique, effectivement. Le bris des urnes électorales et le piétement des votes masculins lors des municipales en 1910. Elle se rend dans les mairies, lors des les mairies d'arrondissement à Paris, lors des cérémonies de mariage, et apostrophe le maire quand il prononce la formule fameuse « Le mari doit protection à la femme et la femme obéissance au mari ». Donc il fallait la mettre dehors de force, c'était épique. Avec Madeleine Pelletier, une autre féministe, une autre militante, elle est arrêtée d'ailleurs pour ça en 1910. Mais en cela, on voit qu'elle adopte les méthodes qualifiées de violentes des activistes anglaises et irlandaises, celles qu'on appelle les suffragettes, dont beaucoup sont arrêtées d'ailleurs et subissent de terribles emprisonnements pour les actes qu'elles ont effectués. Mais c'est pourquoi Hubertine Auclert est surnommée « la suffragette à la française », entre guillemets. Voilà.
Alors, oui ? Oui, alors la suffragette, c'est un nom qui n'est pas... qui est péjoratif.
Oui, alors, vous voyez qu'on emploie le mot suffragette, mais qu'on emploie aussi le mot suffragiste. En fait, la différence entre les termes suffragiste et suffragette, c'est celle-là. Comme d'autres mots se terminant en « ette » dans la langue française, même je ne suis pas linguiste, hein, mais on peut le constater, comme d'autres mots se terminant en « ette » dans la langue française, le mot de suffragette, il est employé pour mépriser, pour minorer, pour rendre inconséquente, bref, pour tourner en dérision la personne ou l'action à laquelle il se rapporte. Et dans la bouche des antiféministes et des détracteurs masculins du vote des femmes, il est ironique, il est moqueur, il est condescendant, il est réducteur, pour dévaloriser la cause et celle qui la porte. Voilà. Alors, au contraire, la terminaison en « iste », elle prend au sérieux une cause, un groupe, un mouvement social ou politique, un courant artistique, scientifique ou de pensée. Même si ces courants nous paraissent peut-être difficiles à admettre pour certains, mais en tout cas, ils sont pris au sérieux. Par exemple, les humanistes, par exemple, en matière d'art, les impressionnistes. Voyez. On peut dire aussi les terroristes, mais on les prend au sérieux, on ne les méprise pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, s'agissant de l'âpre combat des femmes pour conquérir le droit de vote, le droit de voter, nous le prenons au sérieux, ce combat, et nous n'employons que le mot suffragiste. Voilà l'explication.
Merci pour cette explication utile.
Alors, je continue. Hubertine Auclert, elle reste une militante active jusqu'à sa mort à Paris, le 4 août 1914, à 66 ans. Mais son amertume est grande de n'avoir pas vu aboutir sa revendication principale, ni les autres d'ailleurs. Les Françaises en voteront pour la première fois que le 29 mai 1945 pour des élections municipales, soit plus de 30 ans après et presque 100 ans après les hommes. Aussi, désappointée, déçue, à la fin de sa vie, elle était isolée, désappointée, déçue. Devant la tombe d'une amie, elle prononce ces mots en guise d'épitaphe, je cite, « Dans ce monde des morts, tu seras l'égale des hommes qui t'ont méprisée et faites leur inférieur dans le monde des vivants. » J'aimerais avoir cette épitaphe sur ma tombe. Mais non, elle n'aura pas mené en vain son âpre combat d'avant-garde. Et pour nous, en cela, elle est, sinon un modèle, en tout cas une référence précieuse pour toutes celles d'entre nous, les filles et les femmes du XXIe siècle, qui sommes bien obligées de poursuivre en ce monde la lutte pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je voulais signaler qu'il existe à Paris le centre Hubertine Auclert, qui est un centre actif de ressources sur la situation des femmes passées et présentes, et où on peut trouver des conseils, des ouvrages, des DVD, des documentaires, des films. Voilà, donc c'est un centre actif à Paris auquel on peut se référer.
Voilà. Merci Jacqueline, et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Pour un nouveau portrait de femme. Oui. Portraits de femmes qui font partie de notre matrimoine. Oui. Merci, au revoir.
Au revoir.